Alors bonjour à chacune et chacun. J'aimerais tout particulièrement remercier le groupe de louanges pour ce temps qu'on a vécu ensemble. Et vous verrez avec le thème et le contenu du message combien ce temps de louange était précieux. J'aimerais saluer chaleureusement ceux qui nous rejoignent, ceux peut-être qui n'ont pas l'habitude de venir ici, ceux qui nous visitent. Soyez vraiment les bienvenus parmi nous pour passer ce temps de culte ensemble devant notre Dieu. Alors, le message de ce matin porte sur les deux chapitres de 1 Corinthiens, les chapitres 5 et 6. Et ce message s'inscrit dans la suite du message de Raymond sur la première épître aux Corinthiens, il y a environ un mois. Alors, on aborde aujourd'hui les chapitres 5 et 6, et ce sera aussi le thème de notre étude biblique du 6 décembre. Les études bibliques étant actuellement un partage et un approfondissement des passages de 1 Corinthiens que l'on aborde pendant certains cultes. Alors, lorsque Raymond nous a donné son message sur les premiers chapitres de Corinthiens, on a vu qu'il était beaucoup question dans les 1 Corinthiens de pureté. Et même dès le début de l'épître, on lit dans les versets 1 à 3, de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, on s'arrête sur les chapitres 5 et 6 de 1 Corinthiens. Alors qu'il est beaucoup question de pureté dans cette épître, dans les chapitres 5 et 6, les Corinthiens sont fortement repris par Paul, justement sur des points en lien direct avec la pureté. Paul met le doigt sur ceux qui dysfonctionnent de façon toute pratique dans cette église. Les Corinthiens sont successivement repris dans leur comportement et leur façon de vivre sur les points suivants. Tout d'abord au chapitre 5, c'est le sujet de la discipline dans l'Église, basé sur l'exemple d'un cas d'inceste d'une personne avec sa belle-mère. Il est donc question de la discipline à avoir avec les personnes qui, se disant chrétiennes, ont une vie et des pratiques en contradiction profonde avec la foi chrétienne. Je vous lis les deux premiers versets de 1 Corinthiens 5. Il y va fort, Paul, hein, c'est pas rien ce qui est vécu quand même dans cette église. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, vous aurez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Ensuite, dans la première partie du chapitre 6, les versets 1 à 11, il est question des procès que les chrétiens se font entre eux. Waouh ! 1 Corinthiens 6, le verset 1 et une partie du verset 6, « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints ? Un frère est en procès contre un frère et cela devant des incroyants. » Et pan. C'était quand même dur ce qui se vivait dans cette église, et Paul n'y va pas de main morte, à juste titre. Alors ce mode de faire en désaccord avec le statut que le croyant a en Jésus-Christ, là aussi de façon plus globale, c'est la question des pratiques héritées de notre ancienne nature de pécheur qui auraient dû être abandonnées au moment de la conversion et qui sont toujours présentes dans la vie des Corinthiens. Ensuite, dans la deuxième partie du chapitre 6, les versets 12 à 20, Paul aborde le sujet de la liberté chrétienne. Comment comprendre que d'un côté, Christ nous a affranchis, nous sommes donc libres, et en même temps, comme c'est écrit dans 1 Pierre 1,4, nous sommes participants de la nature divine. Nous ne devons pas faire n'importe quoi. La nature divine, c'est la sainteté, car Dieu est saint. On lit le verset 12 de 1 Corinthiens 6. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Alors, je ne sais pas vous, moi, ça m'amène une voire plusieurs questions. En voyant les sujets sur lesquels Paul reprend les Corinthiens, on se pose forcément des questions. Ce sont des sujets graves. Il s'agit de pratiques mondaines, de pratiques très éloignées d'une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Et oui, en devenant enfants de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit, et c'est lui, le Saint-Esprit, qui devient notre guide. Mais chez les Corinthiens, manifestement, il en va autrement. Alors, ma question pour les Corinthiens est la suivante. Comment est-ce que les Corinthiens, qui ont reçu tous les dons et l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent vivre de façon si éloignée des commandements divins? Alors, juste un petit rappel historique. Rappelons-nous que Paul a créé l'église de Corinthe pendant son deuxième voyage missionnaire. Paul a fait trois voyages. Pendant son deuxième voyage, il a créé l'église de Corinthe. C'était donc vers l'an 50 ou 52, entre 50 et 52. Paul écrit la première épître aux Corinthiens ensuite pendant son troisième voyage missionnaire. Nous sommes donc vers l'an 55, soit 4 à 5 ans après la création de l'église de Corinthe. Cette église est donc très jeune. Elle a grandi vite et des notions fondamentales, c'est évident, lui manquent encore. Et pour nous ce matin, que pouvons-nous apprendre de l'exemple des Corinthiens dans notre vie pratique pour aujourd'hui? Un peu plus loin dans cette épître, il nous est dit, c'est intéressant parce que c'est dans cette épître justement que ça nous est dit, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ce n'est pas pour rien que cette épître est dans la Bible. Oui, ces passages ont été écrits car nous en avons besoin. Ils nous sont donnés pour nous instruire, aussi étonnamment que cela puisse paraître à premier abord. Et c'est ce que je vous propose de développer ce matin. Qu'est-ce que la liberté que nous avons en Christ? Comment sommes-nous appelés à vivre cette liberté de façon toute pratique dans notre vie de tous les jours? Comment la mettre concrètement en pratique? Je vous invite pour commencer à nous rappeler quelques bases de la foi chrétienne. Posons notre réflexion sur des éléments fondamentaux de la foi chrétienne afin de comprendre de façon toute concrète ce que représente la liberté que nous avons en Jésus-Christ. On va commencer par remonter assez loin dans le temps, tout de suite après la création d'Adam et d'Ève. Regardons ce qui s'est passé après la création d'Adam et Ève. C'est dans Genèse que ça se passe. Genèse 1, les versets 28 et 29. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi « Je vous donne toute herbe à grains sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. » Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les a laissés libres. Dieu a laissé libre l'humanité de suivre ses consignes, les consignes de Dieu, ou de sortir du respect de son commandement, et alors de casser cette relation privilégiée que l'homme avait à l'époque avec son Dieu. Dieu a mis l'homme au-dessus de la création et il lui a donné la responsabilité de soumettre à la création. Dieu a juste donné une interdiction à l'homme comme preuve de sa soumission. On voit ça en Genèse 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et on connaît la suite. L'homme a désobéi, le péché est entré dans l'humanité et avec le péché, la mort. C'est-à-dire la séparation entre l'homme et Dieu. Il faut retenir que Dieu a laissé Adam et Ève libres. Il les a créés à son image, à sa ressemblance, les a placés dans un jardin magnifique et il les a laissés libres. Libres de maintenir cette hiérarchie avec lui ou libres de désobéir et de casser ce lien qu'il y avait entre Dieu et les hommes. On voit là un principe très important pour Dieu. Dieu laisse libre. Dieu ne s'impose pas. Il partage. Il donne. C'est la notion de l'amour qui donne. L'amour qui se donne. L'amour inconditionnel qui s'offre, l'amour de Dieu. Oui, Dieu donne et nous recevons. Cette notion est pour nous difficile à comprendre. Le fait que l'amour de Dieu soit basé uniquement sur le don, ce n'est pas facile à comprendre pour nous parce que nous sommes humains. Et dans notre nature humaine, en amour, on donne, oui, mais on a aussi beaucoup besoin de recevoir. Après la chute, Dieu a laissé entrevoir à Adam et Ève la possibilité de salut, tout de suite après. En Genèse 3,15, Dieu condamne le serpent et par lui, il condamne l'ennemi qui avait utilisé le serpent pour séduire Ève. Il nous est dit, il a dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La descendance dont il est question ici, c'est Christ. La mort de Christ est le moyen par lequel Dieu a accompli définitivement cette promesse. Nous voyons aussi au verset 21, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel a revêtu Adam et Ève avec des peaux d'animaux. Ce fut là le premier sacrifice, préfiguration lui aussi de l'œuvre de Christ que Christ accomplirait en mourant à la croix pour chacun de nous. Nous voyons donc que le plan de salut n'est pas une solution d'urgence prévue au dernier moment par Dieu pour faire face à la chute de l'homme. Non, le salut que Dieu nous offre s'inscrit dans un plan global de Dieu pour l'humanité. Et ce plan a été prévu avant même la création du monde et notre création. C'est dans Éphésiens qu'on voit ça. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Quelle magnifique manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Pour nous choisir avant la fin du monde, Dieu avait déjà prévu le moyen de salut en Jésus-Christ. Non, le plan de salut n'est pas une mesure de dernière minute. Le salut fait partie d'un plan soigneusement préparé d'avance. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'on voit aussi la finalité du salut. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Vous faites le lien maintenant avec 1 Corinthiens 5, 6. N'était-il pas question de pureté, de sainteté dans cet épître ? Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Avant d'aller plus loin concernant le principe de liberté qui est en cause, qui est la base de notre relation avec Dieu, il est important de se rappeler qu'il y a deux créations qui cohabitent pour encore un peu de temps. Il y a deux créations. D'une part, le royaume de ce monde, et d'autre part, le royaume de Dieu. Le royaume de ce monde ou la création déchue. Avec l'entrée du péché et donc du rejet de l'autorité de Dieu, est née la création déchue, appelée aussi royaume de ce monde. Nous sommes nés dans ce monde, dans ce royaume. C'est dans cette création déchue dont Satan est le prince. Là aussi, il est rassurant de savoir que Satan a été vaincu à la mort de Jésus-Christ. Peu avant sa mort, Jésus lui-même a dit, en Jean 12, le verset 31, « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. » Et puis, il y a un deuxième royaume, le royaume de Dieu ou la nouvelle création. Et ce royaume de Dieu était annoncé déjà très tôt par les prophètes. On voit déjà ça en Ésaïe. Ésaïe 65, au verset 17. « En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. » Jésus aussi a annoncé ce royaume. En Jean 14, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il est bien évident que ce « là où je suis », c'est le royaume de Dieu. La nouvelle création sur le plan physique ne sera effective qu'à l'accomplissement des promesses. Mais le croyant fait déjà partie du royaume de Dieu en esprit. Dans Colossiens 1, on lit deux versets, « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Et puis, Jean a eu une révélation magnifique qui nous donne en Apocalypse 21 et 22. Les deux derniers chapitres de la Bible, c'est facile à trouver. Je vous invite à les lire, mais on lira juste le premier verset, juste le premier verset pour vous donner envie. Apocalypse 21, le verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. » Alors, comment est-ce qu'on passe de la création déchue à la nouvelle création ? C'est par la conversion. Par la conversion, nous sommes passés du monde déchu à la nouvelle création. Et c'est Dieu qui nous fait passer de cette création déchue à la nouvelle création. En 2 Corinthiens 5, on voit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Pour nous faire entrer dans son royaume nouveau, Dieu doit faire de nous quelque chose de nouveau. Il doit faire de nous de nouvelles créatures. À moins d'être créés de nouveau, nous n'appartenons pas au royaume nouveau. Jésus a dit « Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Paul a aussi dit, en 1 Corinthiens 15, « Notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. » Nous avons vu tout à l'heure que Dieu ne s'impose pas. Il a tout accompli pour notre salut, mais il nous laisse libres de le recevoir, de l'accepter, de nous l'approprier. Le salut doit être reçu. Parce que justement, Dieu nous laisse libres. Il ne nous l'impose pas. Il attend notre réponse. L'acceptation personnelle est directement liée au libre choix que Dieu nous laisse de façon individuelle. On retrouve cette notion de liberté individuelle présente dès le début de la création. Et de la même façon que Dieu désire une implication de notre volonté pour le salut, Dieu demande aussi un engagement de notre volonté pour que nous puissions grandir avec lui, grandir spirituellement. Lorsque je dis que Dieu demande notre volonté, c'est dans le sens de prise de position, de faire le choix de s'engager à vivre dans le plan qu'il a pour notre vie. Et c'est vraiment une question de choix, pas une question d'effort. Ce choix est à renouveler à chaque instant de notre vie. Lisons ce que Paul écrivait aux Colossiens, Colossiens 1, déjà depuis le verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis le serviteur. Je suis devenu le serviteur. Dieu nous a réconciliés. Il a accompli ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Mais nous avons à rester fondés, inébranlables dans la foi, à ne pas nous détourner de l'espérance de l'Évangile. On retrouve ce principe à d'autres endroits dans les Épîtres. Puis vous verrez, ce n'est pas le seul principe. On retrouve ça par exemple en Galates, Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Christ est mort pour nous libérer du péché et d'une longue liste de règles et de lois. Il est venu pour nous rendre libres, mais pas pour nous accorder le droit de faire ce que nous voulons. Cela nous ramènerait sous l'esclavage de nos désirs égoïstes. Grâce à lui, nous sommes désormais libres et capables de vivre autrement que de vivre par nous-mêmes. Utiliser notre liberté pour nous montrer complaisants envers nos propres désirs, c'est retomber dans le péché. Mais attention, c'est une erreur, c'est aussi une erreur que de nous placer sous l'obligation de respecter la loi. Il est important de résister aussi à ceux qui voudraient nous faire dépendre de règles, de méthodes et de conditions particulières pour grandir en lui, pour grandir en Christ. 1 Corinthiens 6, 12, justement, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Là aussi, on retrouve notre responsabilité de ne pas se laisser dominer par quoi que ce soit. Paul l'avait bien compris, et le développe dans l'Épître aux Romains. On va lire plusieurs passages de l'Épître aux Romains. On commence par Romains 6, et dans Romains 6, on retrouve bien cette notion de responsabilité face à nos actes. Romains 6, le verset 12, enfin du verset 12 au verset 14, « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts, revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais il y a aussi notre nature pécheresse. Et Paul avait aussi compris que la théorie n'est pas forcément facile à appliquer. Et là, on passe au chapitre 7. Romains 7, 21. « Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? » Voilà le constat de Paul. L'autre loi qui lutte, c'est notre nature pécheresse attachée à notre corps mortel. Elle représente notre vulnérabilité face au péché et renvoie à tout ce qui est en nous. Et renvoie à tout ce qui, en nous, est fidèle à notre ancien style de vie plutôt qu'à notre nature nouvelle de racheter. L'expérience chrétienne quotidienne est marquée par une tension. Nous trouvons les commandements de Dieu bons, mais nous ne parvenons pas à les respecter. Et c'est une source de souffrance pour nous. Cette lutte intérieure était aussi réelle pour Paul qu'elle l'est pour nous aujourd'hui. Cependant, Paul nous apprend comment y faire face. Chaque fois qu'il se sent perdu, il retourne au point de départ de sa vie chrétienne et se rappelle qu'il a été libéré par Jésus-Christ. Nous aussi, lorsque nous nous sentons désorientés, submergés par les attraits du péché, suivons cet exemple. Remercions Dieu de nous avoir libérés par Jésus-Christ et permettons à sa puissance de nous conduire à une véritable victoire sur le mal. Nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté, c'est vrai. Mais par quel moyen, par quel chemin, par quelle façon ? On revient en Romains 6. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. C'est Jésus-Christ qui nous libère de la loi. Lisons la suite de l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, et c'est ça qui est important, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Conformément à l'Esprit. Et ce conformément à l'Esprit peut aussi se traduire par « dans la dépendance de l'Esprit ». Je trouve que c'est plus facile à comprendre. Dans la dépendance de l'Esprit. Le fait de vivre dans cette dépendance de l'aide de l'Esprit nous place sous la protection de Jésus-Christ par rapport aux exigences de la loi. Le fait de vivre dans la dépendance de l'Esprit nous place sous la protection de Jésus-Christ par rapport aux exigences de la loi. Aucune punition n'attend le croyant parce qu'il est uni à Jésus-Christ comme conséquence de sa foi. Il est maintenant gracié et déclaré juste. Il n'est plus sous la colère divine, mais possède la vie éternelle. Le Christ est la sphère de sécurité pour tous ceux qui se confient en lui. Mais que signifie vivre dans la dépendance de l'Esprit ? Là, on va faire une petite parenthèse. Nous avons vu qu'il y a en nous deux natures. D'une part, la nature issue de notre vie déchue, perdue et éloignée de Dieu, que nous appellerons la nature humaine, et d'autre part, la nature divine, celle qui est marquée par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Il y a en nous ces deux natures. Il y a un point commun entre ces deux natures, il y a un point d'opposition entre ces deux natures. Un point commun, d'une part, et un point d'opposition. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça pourrait être. Pas forcément évident comme ça, pris à chaud, hein, ou pris à froid. Le point commun entre ces deux natures est qu'elles sont toutes les deux à géométrie variable. Elles sont toutes les deux à géométrie variable. Oui, toutes les deux peuvent prendre plus ou moins de place en nous. Elles sont donc à géométrie variable. Le point d'opposition qu'il y a entre ces deux natures est le fait que, d'une part, la nature divine, marquée par l'Esprit de Dieu en nous, prendra la place qu'on lui laisse. Je répète, la nature divine, marquée par l'Esprit de Dieu en nous, prendra la place qu'on lui laisse. Alors que la nature humaine prendra toute la place qui reste. Vous voyez ce que je veux dire? Et je peux vous assurer qu'après que la nature humaine ait pris de la place, il ne reste plus rien. Tout sera pris, absolument tout. C'est donc à nous de laisser toute la place à la nature divine, mais vraiment toute la place. Pas presque toute, pas beaucoup de place, il faut lui laisser toute la place. Car la place qui ne lui sera pas laissée sera automatiquement remplie par notre nature humaine et le péché qui lui est assorti. Récapitulons. La chute d'Adam et Ève nous montre un principe très important pour Dieu. Dieu nous laisse libres. Il existe deux créations ou deux royaumes. Le royaume de ce monde, ou la création déchue, le royaume de Dieu, ou la nouvelle création. Le salut nous fait passer du royaume de ce monde au royaume de Dieu. Et Dieu nous laisse libres. Libres au niveau du salut, mais est libre aussi au niveau de la croissance spirituelle. Nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté. C'est Jésus-Christ qui libère. Nous avons à nous engager, faire le choix, mais c'est lui qui libère. Nous, on a juste à faire le choix, à s'engager, et ce n'est pas rien. Ce choix que nous avons à faire se traduit par lui laisser toute la place, ou laisser toute la place à l'esprit que Dieu a mis en nous. Et enfin, rappelez-vous que la nature n'aime pas le vide. Notre nature humaine remplit le vide que nous laissons en nous. En guide de conclusion, je vous invite à lire les trois derniers versets du chapitre de Romains 8. Et suite à ce que nous avons partagé, ils prennent une dimension toute particulière. Romains 8, 37. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à avoir un temps de recueillement et je terminerai ce moment par la prière. Oui Seigneur, nous voulons te remercier. Merci parce que c'est toi qui nous aimes le premier. Merci parce que tu as prévu un plan d'amour, un plan de salut pour chacun, prévu déjà de toute éternité. Merci parce que ton amour t'a conduit à donner ton Fils. Oh oui, Seigneur, donne-nous de réaliser l'importance de ton sacrifice. Aide-nous à user de la liberté que tu nous donnes en te laissant toute la place dans nos vies, afin que tu sois glorifié, afin que tu te manifestes, afin que tu sois agissant en nous, à chaque instant, à chaque moment. Oui Seigneur, donne-nous aussi de nous rappeler à chaque instant de te laisser toute la place, de ne rien en reprendre. Merci parce que tu nous révèles ces vérités dans ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Merci parce que tu es avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. C'est maintenant le moment des annonces. Donc je vous rappelle notre rencontre, réunion d'église, comme l'a précisé Raymond dimanche passé. Chacun est invité à participer. La suite de la réflexion pasteur. Diverses informations aussi seront communiquées concernant les travaux, concernant les dates à venir, etc. Voilà, ayez la liberté de venir. Ensuite, on va peut-être finir les annonces de la semaine. Dimanche prochain, après le thé café, le culte de l'église persécutée. Donc Eric Baumann sera là, ainsi que son remplaçant. Eric Baumann va prendre sa retraite bientôt. Je pense que la plupart d'ici le connaissent, puisqu'il est venu régulièrement dans l'église. Il va prendre sa retraite et donc il y aura son remplaçant qui sera là. On aura l'occasion de faire sa connaissance. Voilà. Sinon, je vais laisser la place à Jean-Paul pour deux annonces.
Ah oui. Ouais, en fait, je vais faire quatre annonces en fait. Je double. Ce matin, en lisant la Bible, j'ai dans une version un peu spéciale, j'ai trouvé le mot « ton compagnon ». Ça vous parle, « ton compagnon » ? En fait, c'était la traduction de « ton prochain ». Ça nous embête toujours, ce mot « prochain ». Et puis, il était marqué qu'il fallait aimer Dieu, son prochain. Et puis, ce mot « prochain », ce compagnon, c'est celui qui a fait aussi dans la Bible, souvent dans notre monde aujourd'hui, le mot « copain », celui avec qui on partage le pain. Alors voilà, tout ça pour dire qu'il est marqué qu'il fallait aimer Dieu, on a entendu ce matin, et qu'il fallait aimer son copain, son compagnon, son prochain. Alors je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris du temps ce week-end pour la collecte de la banque alimentaire. Parce que là, il y a la notion de compagnon, de prochain, de copain. Je crois qu'on a bien travaillé. Je veux dire qu'il y a environ 50 personnes qui se sont mobilisées de l'Église au total. Alors, j'ai l'impression qu'il manque du monde, mais moi j'ai compté 25 personnes sur Ferney et 25 sur les autres magasins. Et je pense qu'on a fait une bonne récolte. Alors merci. Et c'est vraiment, il faut aimer son Dieu, mais il faut aussi aimer son prochain. Fais cela et tu vivras. Vous lirez la parabole du bon samaritain. Voilà, merci en tout cas, et puis moi, je vous donnerai les chiffres exacts parce que c'est intéressant quand même. Ce week-end prochain, on reçoit Eric Baumann, donc, et puis pour le culte. Et puis pendant ce temps, vendredi, samedi, dimanche, il y a le marché de Noël à Prévesin, les petits chalets comme l'année passée, où nous avons un stand avec l'artisanat Sel. Alors venez faire une petite visite, venez nous voir, c'est sympa, puis il y a un tas de trucs à acheter pour vos petits cadeaux de Noël que vous n'avez pas encore fini, c'est super. Ou alors réserver, faire vos cadeaux de Noël en allant au stand, c'est encore mieux. Il y a à la fin, au fond, des flyers à distribuer à vos amis, à vos connaissances, et puis des affichettes aussi, vous mettre sur votre voiture, simplement. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, mais je ne le vois pas, mais tant pis, on va parler sûrement de bonnes nouvelles aussi. Moi, j'aimerais vous inviter à prier demain, à 15h, tous, très fort, pour Mike qui aura un entretien d'embauche. Donc, merci Seigneur pour ça. Un entretien d'embauche à Prévesin, pour un boulot à Prévesin. Donc, on veut se réjouir, mais on a vraiment besoin de nos prières parce que Mike, il est comme ça, je peux vous dire. Il a tout préparé ses papiers, mais il est un peu tendu parce qu'il espère que ça jouera, quoi. Donc voilà. Et puis la dernière chose, les personnes qui sont engagées pour le parcours baptême, juste me voir à la sortie, c'est important. Merci.
Merci Jean-Paul. J'ai oublié un petit détail concernant le culte de l'église persécutée. La collecte sera remise à portes ouvertes, donc à cette occasion. Ensuite, le samedi 10, on aura notre fête de Noël, donc qui va se dérouler à 18h à la salle Gaston Laverrière. Les flyers sont au fond de la salle, prenez-en, distribuez-en si ce n'est pas encore fait, il y a encore du temps, donc c'est bien de le faire. Et puis le samedi 17, donc le samedi d'après, la chorale va participer à une veillée de Noël à Coponnet. Alors pour ceux qui ne savent pas où est situé Coponnet, c'est très facile, c'est grosso modo à mi-distance entre Saint-Julien-en-Genevois et Annecy. Alors à Coponnet, il y a quelques familles de chrétiens qui avaient à cœur de faire une fête de Noël, une veillée de Noël. Et puis, ils cherchaient une chorale. Et puis voilà, clac, ça s'est fait. C'est une bonne chose de pouvoir s'aider, s'entraider comme ça, entre chrétiens. Donc, les deux flyers sont sur le site. Vous pouvez les télécharger, les envoyer à des connaissances par email ou les imprimer. Mais dimanche prochain, en principe, on aura des flyers aussi pour couponner. Voilà. Des nouvelles de des personnes qui sont souffrantes ou qui sont malades. Continuons de penser à Brian. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles récentes de Brian. Je ne sais pas si quelqu'un en a eu.
Il serait rentré vendredi.
Ah, voilà.
Ils sont revenus à toi.
D'accord. Donc, ils sont tout prêts. Merci. Ouais, normalement. Continuons de penser à Roland. Roland a fini sa rééducation vendredi. Roland reprend normalement le travail mercredi. Mais avec la particularité de son travail, ce n'est pas facile de faire des horaires variables. Donc c'est important de penser à cela. Roland reprend le travail, il aurait aimé reprendre à 50%. Apparemment, ce n'est pas simple au niveau des plannings, etc. Il a un très bon contact avec son chef et avec ses collègues. Mais voilà qu'au niveau de l'administration, l'organisation, c'est peut-être moins pratique ou moins facile d'aménager des temps de travail plus légers. Donc, pensons vraiment à cette reprise qui est bien qu'elle se fasse, mais qui n'est peut-être pas évidente au niveau de la charge, de la fatigue que ça va représenter. Annelise est toujours à beau séjour. Alors, Annelise nous a partagé une super bonne nouvelle. C'est que il y a des examens qui sont en cours parce qu'une maladie de peau est suspectée. Et il semblerait que si cette maladie est confirmée, que ce soit elle qui soit à l'origine des difficultés de cicatrisation, des différentes plaies d'analyse. Alors si ça se confirme, c'est une bonne nouvelle parce que pour le coup, cette maladie pourrait être traitée spécifiquement et ça pourrait apporter une nette amélioration à la santé d'Anise. Pensons aussi à Nastia Pokerus, la femme de Pierrick, qui est hospitalisée depuis mercredi suite à un burn-out. Pas forcément facile de gérer tout ce qui nous arrive, toutes les exigences aussi dues au travail, etc. Elle va mieux, mais elle reste hospitalisée encore pour quelques jours. Des visites sont possibles. Elle est à quel endroit, Pierrick? Peut-être tu peux venir donner quelques nouvelles, mais oui.
Bonjour. Oui, en fait, en début de semaine, pour son dernier jour de travail à l'hôtel, parce qu'elle a trouvé un nouveau travail, elle a craqué, enfin, physiquement, et c'est assez violent et inattendu. Donc, elle était hospitalisée au centre psychothérapique de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Donc elle va mieux, elle a bien récupéré. Bon, elle reste fatiguée et elle va rester hospitalisée pendant encore quelques jours, peut-être jusqu'à jeudi ou vendredi. Puis après, elle va avoir un mois d'arrêt de travail avant de commencer son nouveau travail, normalement. Voilà, je vous dis pas ce que c'est. Non, non, non. Elle va. Mais bon, c'était un épuisement. Enfin, le travail dans l'hôtellerie, c'était un travail de marteau. Voilà. Donc, merci pour vos prières et pour tous ceux qui ont pensé à nous. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que c'était une semaine assez intense, éprouvante. Mais voilà. Donc là, je vais me sauver parce que on va m'emmener à Bourg-en-Bresse. Donc voilà. On sera là la semaine prochaine, normalement. Et il n'y a pas de souci si vous voulez l'appeler ou la visiter. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.
Voilà, merci Pierrick. En tout cas, transmets-lui nos chaleureuses salutations, on pense beaucoup à elle. C'est important de recevoir des visites, ce n'est pas forcément simple parce que ce n'est pas la porte à côté. On va mettre sur le site son numéro de téléphone. C'est important de lui téléphoner avant, mais sachez qu'elle est visitable. Alors voilà, si quelqu'un est disponible. Élodie Baran est très fatiguée. Elle a eu des épisodes de vertige, une grande fatigue. Voilà, pensons beaucoup à Elodie, elle doit se reposer, rester allongée. Pensons à Elodie et Sandy aussi. Voilà, est-ce que j'aurais oublié une annonce? Oui, Charlie, oui. Mais oui. Charlie a trouvé un jeu de clés, avec, il semblerait, une clé de voiture. Alors voilà, une clé de voiture avec un petit peu de noir et puis d'autres clés. si quelqu'un les reconnaît, ou en tout cas reconnaît qu'il a oublié ses clés, en général, quand on perd ses clés de voiture, on s'en rappelle, on s'en rend compte. Donc voilà, elles sont là, à disposition. Voilà, donc dimanche prochain, répétition des enfants. Pensez-y pour le pique-nique et puis pour la disponibilité. Et puis s'inscrire aussi pour les desserts. Sinon, je vais inviter le groupe de musique et de chant de revenir. On va chanter en guise de conclusion de notre culte le chant « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?»
On peut se lever.